Chapitre 13. Après le dragon, la vipère. Il est temps pour nous de revenir à ces personnages de notre histoire que la nécessité et l'intrigue, aussi bien que la vérité historique, ont relégué au deuxième plan. Oliva se préparait à fuir pour le compte de Jeanne quand Beausire, prévenu par un avis anonyme, Beausire, haletant après la reprise de Nicole, se trouva conduit jusque dans ses bras et l'enleva de Cagliostro, tandis que M. Retaux de Villette attendait vainement au bout de la rue du Roi Doré. Pour trouver les heureux amants que M. de Crone avait tant d'intérêt à découvrir, Mme de Lamotte, qui se sentait dupée, mit en campagne tout ce qu'elle eut de gens affidés. Elle aimait mieux, on le conçoit, veiller elle-même sur son secret que d'en laisser le maniement à d'autres, et, pour la bonne gestion de l'affaire qu'elle préparait, il était indispensable que Nicole fût introuvable. Il est impossible de dépeindre les angoisses qu'elle eut à subir quand chacun de ses émissaires lui annonça, en revenant, que les recherches étaient inutiles. En ce moment même, elle recevait, cachée, ordre et ordre de paraître chez la reine et de venir répondre de sa conduite au sujet du collier. Nuitamment, voilée, elle partit pour Bar-sur-Aube, où elle avait un pied-à-terre, et y étant arrivée par des chemins de traverse sans avoir été reconnue, elle prit le temps d'envisager sa position sous son véritable jour. Elle gagnait ainsi 2 ou 3 jours face à face avec elle-même et se donnait le temps et avec le temps la force de soutenir par une solide fortification intérieure l'édifice de ses calomnies. 2 jours de solitude pour cette âme profonde, c'était la lutte au bout de laquelle seraient domptés le corps et l'esprit, après laquelle la conscience obéissante ne se retournerait plus, instrument dangereux contre la coupable, après laquelle le sang aurait pris l'habitude de circuler autour du cœur sans monter au visage pour y révéler la honte ou la surprise. La reine, le roi qui la faisait chercher, n'apprirent son installation à Bar-sur-Aube qu'au moment où elle était déjà préparée à faire la guerre. Ils envoyèrent un exprès pour l'amener. Ce fut alors qu'elle apprit l'arrestation du cardinal. Tout autre qu'elle eût été terrassée par cette vigoureuse offensive, mais Jeanne n'avait plus rien à ménager, qui était une question de liberté dans la balance auprès des questions de vie ou de mort qui s'y entassaient chaque jour. En apprenant la prison du cardinal et l'éclat qu'avait fait Marie-Antoinette, la reine a brûlé ses vaisseaux, calcula-t-elle froidement. Impossible à elle de revenir sur le passé. En refusant de transiger avec le cardinal et de payer les bijoutiers, elle joue quitte ou double. Cela prouve qu'elle compte sans moi et qu'elle ne soupçonne pas les forces que j'ai à ma disposition. Voilà de quelle pièce était faite l'armure que portait Jeanne lorsqu'un homme, moitié exempt, moitié messager, se présenta tout à coup devant elle et lui annonça qu'il était chargé de la ramener à la cour. Le messager, chargé de l'amener à la cour, voulait la conduire directement chez le roi, mais Jeanne, avec cette habileté qu'on lui connaît, « Monsieur, dit-elle, vous aimez la reine, n'est-ce pas ?»« En doutez-vous, madame la comtesse ?» reprit le messager. « Eh bien, au nom de cet amour loyal et du respect que vous avez pour la reine, je vous adjure de me conduire chez la reine d'abord. » L'officier voulut faire des objections. « Vous savez assurément de quoi il s'agit mieux que moi, partit la comtesse. Voilà pourquoi vous comprendrez qu'un entretien secret de la reine avec moi est indispensable. » Le messager, tout pétri des idées calomnieuses qui empestaient l'air de Versailles depuis quelques mois, crut réellement rendre service à la reine en menant Madame de Lamotte auprès d'elle avant de la montrer au roi. Qu'on se figure la hauteur, l'orgueil, la conscience altère de la reine, mise en présence de ce démon qu'elle ne connaissait pas encore, mais dont elle soupçonnait la perfide influence sur ses affaires. Qu'on se représente Marie-Antoinette, veuve encore inconsolée de son amour qui avait succombé au scandale, Marie-Antoinette écrasée par l'injure d'une accusation qu'elle ne pouvait réfuter, qu'on se la représente après tant de souffrances, se disposant à mettre le pied sur la tête du serpent qui l'a mordu. Le dédain suprême, la colère mal contenue, la haine de femme à femme, le sentiment d'une supériorité incomparable de position, voilà quelles étaient les armes des adversaires. La reine commença par faire entrer comme témoins 2 de ses femmes, œil baissé, lèvres closes, révérence lente et solennelle. Un cœur plein de mystères, un esprit plein d'idées, le désespoir pour dernier moteur, voilà quel était le second champion. Madame de Lamotte, dès qu'elle aperçut les deux femmes, « Bon, dit-elle, voilà deux témoins qu'on renverra tout à l'heure. »« Ah, vous voilà enfin, madame !» s'écria la reine, « on vous retrouve enfin !» Jeanne s'inclina une seconde fois. « Vous vous cachez donc ?» dit la reine avec impatience. « Me cacher ? Non, madame !» répliqua Jeanne, une voix douce et à peine timbrée, comme si l'émotion produite par la majesté royale en altérait seule la sonorité ordinaire. « Je ne me cachais pas. Si je me fusse caché, on ne m'eût point trouvé. » « Vous vous êtes enfui, cependant, appelez ça comme il vous plaira. »« C'est-à-dire que j'ai quitté Paris, oui, madame, sans ma permission. »« Je craignais que Sa Majesté ne m'accordât pas le petit congé dont j'avais besoin pour arranger mes affaires à Bar-sur-Aube, où j'étais depuis 6 jours, quand l'ordre de Sa Majesté m'y vint chercher. »« D'ailleurs, il faut le dire, je ne croyais pas tellement nécessaire à Votre Majesté que je fusse obligé de la prévenir pour faire une absence de 8 jours. » « Vous avez raison, madame. Pourquoi avez-vous craint mon refus d'un congé ? Quel congé avez-vous à me demander ? Quel congé ai-je à vous accorder ? Est-ce que vous occupez une charge ici ?» Il y eut trop de mépris sur ces derniers mots. Jeanne blessée, mais retenant son sang comme les chats piqués par la flèche. « Madame, dit-elle humblement, je n'ai pas de charge à la cour, c'est vrai, mais Votre Majesté m'honorait d'une confiance si précieuse que je me regardais comme engagé bien plus auprès d'elle par la reconnaissance que d'autres ne le sont par le devoir. » Jeanne avait cherché longtemps, elle avait trouvé le mot « confiance » et elle appuyait dessus. « Cette confiance, répéta la reine, plus écrasante encore de mépris que dans sa première apostrophe, nous allons en régler le compte. Avez-vous vu le roi ? Non, madame, vous le verrez. » Jeanne salua. « Ce sera un grand honneur pour moi, dit-elle. » La reine chercha un peu de calme pour commencer ses questions avec avantage. Jeanne profita de ce répit pour dire « Mais, mon Dieu, madame, comme Votre Majesté se montre sévère à mon égard, je suis toute tremblante. »« Vous n'êtes pas au bout, dit brusquement la reine. Savez-vous que Monsieur de Rohan est à la Bastille ?»« On me l'a dit, madame. Vous devinez bien pourquoi. » Jeanne regarda fixement la reine et, se tournant vers les femmes dont la présence semblait la gêner, répondit « Je ne le sais pas, madame. Vous savez cependant que vous m'avez parlé d'un collier, n'est-ce pas ? D'un collier de diamants, oui, madame. Et que vous m'avez proposé de la part du cardinal un accommodement pour payer ce collier. C'est vrai, madame. Ai-je accepté ou refusé cet accommodement ? Votre Majesté a refusé. » « Ah !» fit la reine avec une satisfaction mêlée de surprise. « Sa Majesté a même donné un acompte de 200 000 livres, ajouta Jeanne. « Bien, et après ?»« Après, Sa Majesté, ne pouvant payer, parce que Monsieur de Calonne lui avait refusé de l'argent, a renvoyé l'écrin au joaillier Boehmer et Bossange. »« Par qui renvoyé ?»« Par moi. Et vous, qu'avez-vous fait ?» « Moi, dit lentement Jeanne, qui sentait tout le poids des paroles qu'elle allait prononcer, moi, j'ai donné les diamants à monsieur le cardinal. »« Ah, monsieur le cardinal !» s'écria la reine, « pourquoi, s'il vous plaît, au lieu de les remettre au joaillier ?»« Parce que, madame, monsieur de Rohan s'étant intéressé à cette affaire qui plaisait à votre majesté, je l'eusse blessé en ne lui fournissant pas l'occasion de la terminer lui-même. » « Mais comment se fait-il que vous ayez tiré un reçu des joailliers ?»«
Parce que Monsieur de Rohan m'a remis ce reçu. »«
Mais cette lettre que vous avez, dit-on, remise au joaillier comme venant de moi,
Monsieur de Rohan m'a prié de la remettre. »«
C'est donc en tout et toujours Monsieur de Rohan qui est mêlé à ça !» s'écria la reine.
« Je ne sais ce que Votre Majesté veut dire, » répliqua Jeanne d'un air distrait, « et ni de quoi Monsieur de Rohan s'est mêlé. »
Je dis que le reçu des joailliers remis ou envoyé pour moi à vous est faux.
Faux, dit Jeanne avec candeur. Oh, madame,
je dis que la prétendue lettre d'acceptation du collier, signée, dit-on, de moi, est fausse.
Oh, s'écria Jeanne, plus étonnée encore en apparence que la première fois.
Je dis enfin, poursuivit la reine, que vous avez besoin d'être confrontée avec monsieur de Rohan pour nous éclaircir cette affaire.
« Confronté, dis-je, mais, madame, quel besoin de me confronter avec monsieur le cardinal ? Lui-même le demandait.
Lui?
Il vous cherchait partout. Mais madame, c'est impossible. Il voulait vous prouver, disait-il, que vous l'aviez trompé. Et pour cela, madame, je demande la confrontation. Elle aura lieu, madame, croyez-le bien. Ainsi, vous niez savoir où est le collier. Mais comment saurais-je? Vous niez avoir aidé monsieur le cardinal dans certaines intrigues. Votre majesté a tout droit de me disgracier, mais de m'offenser aucun. Je suis une Valois, madame. Monsieur le cardinal a soutenu devant le roi des calomnies qu'il espère faire reposer sur des bases sérieuses. Je ne comprends pas. Le cardinal a déclaré m'avoir écrit. Jeanne regarda la reine en face et ne répliqua rien. « M'entendez-vous ? » dit la reine. « J'entends, oui, votre majesté. »« Et que répondez-vous ? » « Je répondrai quand on m'aura confronté avec monsieur le cardinal. »« Jusque-là, si vous savez la vérité, aidez-nous. » « La vérité, madame, c'est que votre majesté m'accable sans sujet et me maltraite sans raison. »« Ce n'est pas une réponse, cela. »« Je n'en ferai cependant pas d'autre ici, madame. » Et Jeanne regarda les deux femmes encore une fois. La reine comprit, mais elle ne céda pas. La curiosité ne put l'emporter sur le respect humain. Dans les réticences de Jeanne, dans son attitude à la fois humble et insolente, perçait l'assurance qui résulte d'un secret acquis. Ce secret, peut-être Jeanne l'eût-elle acheté, pas douceur. Elle repoussa ce moyen comme indigne d'elle. « Monsieur de Rohan a été mis à la Bastille pour avoir trop voulu parler. » dit Marie-Antoinette, « prenez garde, madame, d'encourir le sort pour avoir voulu vous taire. » Jeanne enfonça ses ongles dans ses mains, mais elle sourit. « À une conscience pure, dit-elle, qu'importe la persécution, la Bastille me convaincra-t-elle d'un crime que je n'ai pas commis ?» La reine regarda Jeanne d'un œil courroucé. « Parlerez-vous, dit-elle. Je n'ai rien à dire, madame, sinon à vous. « À moi? Eh bien, est-ce que ce n'est pas à moi que vous parlez? Pas à vous seul. »« Ah! Nous y voilà !» s'écria la reine. « Vous voulez le huis clos. Vous craignez le scandale de l'aveu public après m'avoir infligé le scandale du soupçon public. » Jeanne se redressa. « N'en parlons plus, dit-elle, ce que je faisais, c'était pour vous. Quelle insolence ! Je subis respectueusement les injures de ma reine, dit Jeanne, sans changer de couleur. « Vous coucherez à la Bastille ce soir, madame de Lamotte. »« Soit, madame, mais avant de me coucher, selon mon habitude, je prierai Dieu pour qu'il conserve l'honneur et la joie à votre majesté, » répliqua l'accusé. La reine, se levant furieuse, passa dans la chambre voisine en repoussant les portes avec violence. « Après avoir vaincu le dragon, dit-elle, j'écraserai bien la vipère. » « Je sais son jeu par cœur, » pensa Jeanne. « Je crois que j'ai gagné. »